Je me pose moi que j'ai commencé à fouiller, à essayer de regarder un peu quand est-ce qu'a eu lieu ce changement de mentalité. Globalement aujourd'hui, la piste que j'ai, c'est plutôt 98, c'est-à-dire Google. Je sais pas si c'est un si c'est un l'élément déclencheur ou pas, ou si c'est une cause, une conséquence, je sais pas trop. Est-ce que toi, tu as une piste là-dessus sur qu'est-ce qui a fait que les gens, il y a effectivement la génération d'avant ou le début de la génération de maintenant, avaient une position complètement différente sur la vie privée?
Sur ta réponse à Facebook, ça rejoint un peu mon argumentaire général, donc à classer dans ce qui te semble anodin aujourd'hui, demain te sera
Oui,
reproché.
c'est ça.
Donc, on est dans le même type de procédé. Sur les raisons, c'est compliqué. Moi, j'ai pas. Il y a tout un tas d'éléments. Alors peut-être, pourquoi pas Google? Je crois quand même que 98, c'est un peu tôt. Qu'à l'époque, Google n'avait pas une influence suffisante pour avoir.
Enfin, dans ces eaux-là, en tout cas, quoi.
Mais bon, il y a d'autres choses qui sont passées. Le début de la télé-réalité aussi, ça change dans la tête des gens la notion d'intimité, de vie privée. Moi, je prends souvent aussi des trucs comme la généralisation des babyphones. C'est quelque chose de très con. Mais le fait de surveiller son gamin en permanence, d'avoir en permanence un micro branché dans la chambre de son gosse, il me semble que quand même, peut-être même inconsciemment, mais pour les gens, c'est voilà, que mon gosse, même à l'état de larve vagissante, n'ait plus la moindre vie privée. Je ne suis pas sûr que ça renforce énormément la valeur de la vie privée dans l'esprit des gens, si tu veux. Il y a tout un tas d'éléments comme ça. Bon, l'évolution technique, forcément aussi, le fait d'avoir des ordinateurs reliés les uns aux autres, le fait de pouvoir se parler à distance beaucoup plus facilement qu'avant, y compris en se voyant. Donc, le fait de passer du téléphone à la visio, c'est des choses vachement importantes. Le téléphone, tu as cette notion d'intimité, tu peux te gratter les couilles quand tu es au téléphone avec ta mère.
Ouais, mais même au niveau technique, on a quand même eu aussi un basculement. C'est-à-dire qu'avant, on avait les téléphones, c'était déjà compliqué, c'était quand même centralisé. Enfin, pas centralisé, c'était le réseau commuté et autres. Et maintenant, on est à Google, VoIP, tout le monde a tout balancé en clair. Il y a, même à ce niveau-là, on a eu aussi un changement de mentalité, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on leur expliquerait comment techniquement ça marche le réseau. Alors, ils ont peut-être pas envie de le savoir. Mais on leur expliquerait comment ça marche. Ils diraient, ouais, ok, je vais peut-être arrêter la vidéoconférence ou les trucs comme ça. Mais ils s'en foutent, en fait, ils veulent même pas le savoir, en fait.
Le problème, c'est qu'ils veulent pas le savoir. C'est pas qu'ils s'en foutent. Je pense que si on arrivait à les convaincre de le savoir, ils s'en foutraient moins. Mais voilà, je pense, en tout cas, pour répondre à ta question, je crois pas qu'il y ait un truc en particulier, mais un ensemble de choses qui font ça. Et aussi, très probablement, un discours public de nos décideurs. Je crois que le glissement sémantique de vidéosurveillance à vidéoprotection, il n'est pas anodin, il est volontaire. C'est pas quelque chose que d'un seul coup, les maires ont décidé de tiens, je vais changer de mot. C'est aussi comment faire rentrer dans la tête des gens que c'est pas on les surveille pas, on les protège, tout va bien. Tu vois, ça n'est pas que des aspects techniques, il y a aussi quelque part très probablement
Ah non, il y a
une
clairement de tout,
volonté,
hein, ça c'est clair. Il n'y a pas que
un
la technique.
agenda pour que la vie privée devienne moins importante dans l'esprit du public. Il me semble qu'on ne peut pas négliger non plus cette piste-là. Beaucoup de mains qui se lèvent d'un seul coup, que là je.
Ouais. Ma remarque va porter plutôt sur un autre public que le tien, j'ai l'impression. Moi, je me suis surtout adressée auprès enfin, des pré-ados, ados et jeunes adultes, où j'ai l'impression qu'il y a un truc de génération qui est assez fort, parce que ces personnes-là ont intégré justement toute cette socialisation différente sur la question de la vie privée. En fait, du coup, quand j'ai essayé de faire un peu de prévention sur les libertés numériques, la vie privée auprès de ces publics-là, ce qui en sortait, c'est que c'est presque un défi de ne pas avoir de vie privée, de ne rien avoir à cacher. Et c'est comme si, t'es sûr que t'as rien à cacher? Ben non, j'ai rien à cacher. Et les premiers argumentaires que tu montrais sur tes slides, comme quoi, ah oui, t'as rien à cacher. Et si tu chantais sous ta douche, et s'il y avait des micros, est-ce que tu continuerais à chanter? Les réponses, de manière presque un peu bête et méchante, sont, je continuerai à chanter, j'ai rien à cacher de toute façon, je m'en fous. Et de manière assez systématique comme réaction. Et j'ai l'impression, c'est parce que du coup, comme je disais, c'est des personnes qui ont intégré beaucoup plus massivement cette notion de je n'ai rien à cacher, on ne doit rien avoir à cacher, et si j'ai quelque chose à cacher, c'est un problème. Et du coup, la question de vie privée est, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, a presque plus de sens pour ces personnes-là, alors que j'ai l'impression que la question de l'intimité, pour le coup, parlerait plus. Alors, on revient sur cette question de sémantique. Là, effectivement, comme tu disais, l'aspect législatif, enfin, l'argumentaire législatif ne parle pas pour l'intimité. Mais j'ai l'impression qu'on touche à quelque chose d'un peu plus... un peu plus humain et un peu moins socialement construit. Donc un peu plus transgénérationnel quand on parle d'intimité. Et le fait de dire... enfin, moi, ça me pose un problème de dire aux gens on a tous quelque chose à cacher. Parce que la question, ce n'est pas de cacher quelque chose, mais plutôt, à mon sens, d'avoir du pouvoir sur qu'est-ce qu'on diffuse comme information sur soi. Et ce qui relève de l'intime, c'est ce sur quoi je veux être la seule à avoir du pouvoir en termes de diffusion, de savoir à qui j'en cause et de comment ça se, ça se prête ensuite, quoi. Est-ce que c'est clair ?
Entendons-nous bien juste sur un point. Quand je choisis d'utiliser l'argument « oui, tu as quelque chose à cacher » et de le montrer, ça n'est pas pour convaincre la personne qu'il doit se cacher, c'est pour qu'il prenne conscience de l'importance de la vie privée en général. Évidemment, je pense, il y a quelque temps, avant de commencer à me pencher sur ces questions au point de mettre en marche Calliope et d'autres, j'avais un peu ce type de discours-là. C'est-à-dire que je disais, la vie privée, un peu pour paraphraser encore Manac, est une affaire de vieux cons. On vit dans un village global. À l'époque, on vivait tous dans des villages, tout le monde savait tout de nous et ça ne posait pas de problème. La vie privée, c'est une notion très moderne, quelque part, et qui n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Je n'ai commencé à changer d'avis, moi, perso, que quand j'ai commencé à prendre conscience du fait que sans vie privée, il n'y a pas de vie publique, ou très peu, que sans vie publique, il n'y a pas de démocratie, ou très peu. Et là, c'est là où j'ai commencé à changer de discours et à dire, OK, donc il ne faut pas négliger ce truc-là. Si même moi, je me suis fait avoir, c'est encore pire, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que je suis si ardent maintenant. Enfin, énervé en tout cas, c'est sûr. Ardent, peut-être pas à mon âge. Mais le fait d'avoir failli me faire avoir aussi par ce type de discours-là me fait réagir un peu plus violemment. Mais encore une fois, moi, ce qui a marché sur moi, en tout cas, c'est ça. C'est tu ne peux pas avoir de pensée indépendante si tu ne la confrontes pas aux autres. Et tu ne la confrontes pas aux autres si tu n'as pas de vie privée. Tu peux la confronter au livre, et encore, c'est compliqué. Et même ça, la confronter au livre, c'est pas si simple que ça, parce que quand tu as une pression sociale pour « Oh là là, tu lis cette saloperie », l'exemple moderne, là, aujourd'hui, le plus récent, c'est vous allez rentrer dans l'algorithme du gouvernement si vous allez regarder une vidéo de décapitation. Il est parlant, cet exemple. C'est pas un bouquin, bien sûr, une vidéo de décapitation, mais c'est de la curiosité. On veut comprendre qu'est-ce qui pousse ces gens-là à faire ça. À quel degré d'horreur on les a peut-être nous-mêmes poussés avec nos sociétés occidentales et la façon dont on les a traités. Ce type de questionnement-là, si je sais que je vais être pris dans un algorithme qui va surveiller toutes mes correspondances, je ne vais pas aller regarder la vidéo. Je ne vais plus me poser ces questions-là. Et si je ne me pose pas de questions, je deviens un petit robot quelque part au bout d'un moment. Le détournement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que le projet de loi est passé aujourd'hui que là, on va arrêter de se voir et de discuter de ça. Mais petit à petit, peut-être que demain, enfin dans quelques mois, on apprendra qu'un groupe d'activistes s'est fait arrêter parce qu'ils étaient en train d'organiser l'installation dans une ZAD. Petit à petit. Ça, pour le coup, ça rentre parfaitement. Voilà, ça commence et ça continuera. Ça rentre parfaitement dans le projet de loi renseignement. Quand ce type d'exemple-là va se multiplier, les gens vont juste arrêter de vouloir s'installer dans des ZAD, ou en tout cas, il y en aura beaucoup moins qu'ils feront. Et donc, encore une fois, on perd en liberté. Encore une fois, ça n'est pas du jour au lendemain, mais ça installe dans l'esprit du public qu'il y a une pression légale pour ne pas faire des choses qui pourraient déranger l'État, et donc, ne les faites pas. Et cette pression-là, elle est trop grave pour qu'on l'ignore. Donc il faut trouver des arguments. Il faut qu'on les trouve, ces arguments-là, y compris pour les jeunes.
Je pense que tu prêches des convaincus, mais justement, j'ai l'impression que l'argumentaire que tu proposais, même si le fond devrait être le même auprès des jeunes, je pense qu'il devrait être différent en termes de stratégie.
Là, on est sans doute parfaitement d'accord. Mais j'ai peu l'occasion de discuter avec des jeunes. Je n'aime pas ça. Les jeunes, discuter, j'aime beaucoup. Hein,
Bonjour, Henri. Toute la problématique de la vie privée, c'est qu'en fait, il n'y a pas une vie privée, il y a plusieurs vies privées.
dans le sens où ce que j'invoque comme étant ma vie privée quand je suis au boulot n'est pas la même chose que ce que j'invoque comme étant ma vie privée quand je suis chez moi, qui n'est pas non plus ce que j'invoque comme vie privée quand je parle à mon assureur, à mon banquier, etc. Ce qui complique encore la chose, c'est que par rapport à ça, ce qui est moi ma vie privée n'est pas forcément ce que moi j'invoque comme étant de ma vie privée, et on l'a bien vu à l'instant, n'est pas forcément ce que vous vous invoquez comme étant de votre vie privée. Donc c'est un sujet éminemment complexe et qui se rapporte à l'individu. Donc on ne peut pas avoir une communication globale aujourd'hui et fondamentalement affirmative sur le domaine de la vie privée parce que chacun va l'interpréter à sa manière. Et ce qui est sûr, c'est que chacun par contre va l'interpréter à l'aune des services qui lui sont rendus par les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, une des raisons qui fait qu'il ne s'intéresse pas à la technique, c'est parce que ça lui rend des services. Et il a l'impression que ces services, il les paie peu cher. Donc le problème n'est pas un problème de vie privée, c'est pas un problème de technique non plus, c'est un problème de communication, comme Tristan Nitot l'a montré avec Ni Pigeon ni Espion. Qu'est-ce qui a marché comme exemple? C'est pas du tout ce auquel ils pensaient, c'est que tout d'un coup, les gens, ils ont capté sur la question de l'argent, et rien que sur la question de l'argent. L'argument massu, en tout cas, de com sur la vie privée, c'est sûr qu'il reste à trouver. Mais pour terminer avec une vision un tout petit peu positive, moi, je suis extrêmement optimiste, d'une part, parce qu'il y a ces discussions qui sont en train de... Moi, je suis sur ce sujet-là depuis 2004. Je vois maintenant que c'est... Voilà, il y a ces conférences-là qui existent. Mais plus encore, je suis très surpris. Quoi qu'on pense de la boîte, ce n'est pas le sujet. Une des premières capitalisations boursières au monde, Apple, aujourd'hui, depuis deux keynotes, est en train de mettre comme élément stratégique différenciateur la gestion des données personnelles de ses clients. On le croit, on ne le croit pas, ce n'est pas la question. Le fait est que cette boîte qui a 800 millions de comptes dans ses livres, dans ses serveurs, aujourd'hui, son discours, la dernière keynote, si vous l'avez regardé, tous les arguments pour vendre les nouveaux services, c'est nous protégeons les données personnelles de nos clients. Ce qui est sûr, c'est que ce discours-là va commencer à changer les mentalités. Donc c'est très bien qu'on soit là en ce moment pour avancer sur ce terrain, parce que c'est maintenant que les choses vont commencer à changer, et c'est des boîtes comme Apple et d'autres qui vont nous aider à avancer là-dessus.
On va devoir s'arrêter parce qu'on a déjà très largement dépassé l'horaire. Et laisser la place au suivant, parce qu'il y a d'autres conférences après.